Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Amen. Bonjour à chacune et à chacun. Alléluia. C'est beau de voir des visages souriants. Hein, Jésus est le soleil de justice qui vient rayonner en nos cœurs. Nous allons ouvrir la parole. C'est un moment important. Psaume 73. Psaume 73, verset 1. C'est un psaume d'Asaph. Asaph, c'est un nom qui nous dit quelque chose. Il y a eu des recueils qui ont été faits et qui portent son nom, des recueils de cantiques. Psaume 73, verset 1. Ça commence par une affirmation. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur, et nous disons Amen. Oui, c'est une réalité. Oui, Dieu est bon. Et la parole veut nous placer, veut nous mettre face à face à cette réalité. Oui, c'est une certitude. Dieu est bon. Il est bon pour Israël, il est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Dieu est bon. C'est dans sa nature. Ça fait partie de ses nombreux attributs. Que d'attributs n'a-t-il pas? Tous aussi beaux, merveilleux les uns que les autres. Dieu est bon. Dieu est bon. David, homme de Dieu, David, le chantre de l'Éternel, David qui avait une communion avec son Dieu, dira haut et fort dans le psaume 145 que nous avons lu ce matin en introduction. Psaume 145, verset 9. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. L'Éternel est bon envers tous. Envers tous. La bonté de Dieu est universelle. La bonté de Dieu, elle est pour tous. La bonté de Dieu est pour chacun et pour chacune. L'Éternel est bon envers tous. Il fait même pleuvoir sur les bons et les méchants. L'Éternel est bon envers tous. Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres, parce qu'il est bon, parce que son cœur est empreint de bonté, d'amour et de compassion, eh bien, ses actions elles-mêmes sont empreintes de bonté. Ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Quand il fait quelque chose, l'arrière-plan, c'est l'amour, l'arrière-plan, c'est la bonté, l'arrière-plan, c'est la bienveillance. Dieu est un Dieu créateur, n'est-ce pas? Et il y a comme un refrain qui revient dans le premier chapitre de la Genèse. Un refrain qui nous dit, voilà, alors verset 3, chapitre 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Il a créé la lumière, et le constat qu'il a fait après cette création, c'est que la lumière était bonne. Ensuite, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel s'amassent en un seul endroit et que la partie sèche apparaisse, il en fut ainsi. Dieu créé par le pouvoir et la puissance de sa parole. Dieu appela terre la partie sèche et il appela mer la masse des eaux. Dieu vit que cela était bon. C'est un refrain qui revient. Dieu vit que cela était et bon. Puis, Dieu dit que la terre se couvre de verdure, d'herbes porteuses de semences, d'arbres fruitiers, donnant sur la terre des fruits selon leur espèce, ayant en eux leurs semences. Il en fut ainsi. Dieu dit, et il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe porteuse de semences selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ensuite, il va créer les astres, le grand, le soleil, le petit, la lune, et toutes les étoiles du ciel. Et là encore, Dieu vit que cela était bon. Ensuite, il va passer au monde marin. Dieu dit que les eaux se mettent à grouiller d'êtres vivants. Et Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, etc. Dieu vit que cela était bon. On va plus loin dans la création, on passe aux animaux. Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espace, selon leur espèce, bétail, reptiles, animaux terrestres, chacun selon son espèce. Il en fut ainsi. Voilà, Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon leur espèce. Il fit tous les reptiles du sol selon leur espèce. Et là encore, Dieu vit que cela était bon. Et nous arrivons au summum de la création, l'homme. Ensuite, Dieu va contempler toute son œuvre. Toute son œuvre. Il va faire le constat suivant. Ce n'était pas bon, c'était très bon. Genèse chapitre 1, verset 31. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Et voici, c'était très bon. Dieu est bon, et cette bonté se retrouve dans toutes ses œuvres, dans tous ses ouvrages, au cœur même de la création. Il a créé aussi un peuple pour qu'il lui appartienne en propre, pour qu'il soit leur Dieu, ce qu'on appelle le peuple de Dieu. Il est allé le chercher dans un pays de servitude, l'Égypte. Il en a fait sortir à bras étendus et à main puissante et à main forte. Et il va susciter un homme en la personne de Moïse pour qu'il entraîne tout son peuple en dehors d'Égypte et le conduise vers le pays de la promesse. Dieu parlera ainsi à Moïse, Exode chapitre 3 verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant de lait et de miel. Ce que Dieu met à notre disposition, c'est le meilleur, c'est ce qu'il y a de bon pour nous. Il a donné à son peuple la délivrance et les a conduits vers un bon et vaste pays, un pays plein de richesses découlant de lait et de miel, avec de nombreux pâturages qui vont permettre au menu et au gros bétail d'apporter tout ce dont les hommes ont besoin. Le pays de la promesse, Dieu est bon, il aura donné un bon et vaste pays. Dieu nous comble d'une manière ou d'une autre. Il nous a donné tant et tant de choses. Il nous a aussi laissé quelque chose qui est très précieux. Sa parole. Sa parole est venue jusqu'à nous. Que de combats, que de luttes n'a-t-il pas fallu pour qu'elle vienne jusqu'à nous? Nous avons une richesse entre nos mains. Dans certains pays, si l'on est découvert avec la parole de Dieu, notre vie est mise en jeu. Nous avons cette liberté. Usons de cette liberté. Méditons la parole. faisons-la nôtre, vivons-la. Il nous a donné aussi le meilleur au travers de sa parole. C'est Paul qui le dit au travers de l'épître aux Romains. Romains chapitre 7, verset 12. Ainsi, la loi est sainte et le commandement saint, juste et bon. Le commandement est saint, il vient de Dieu, il est juste, il vient de Dieu et il est bon. Et il est bon, la parole, elle est bonne pour nos cœurs, pour nos âmes et pour nos vies. Dieu accorde la bénédiction à son peuple. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, il donne des conditions pour entrer dans cette bénédiction. Il y a toute une liste, et ceux qui n'entrent pas dans l'obéissance à la volonté de Dieu, ben, vont rencontrer ce que l'on appelle malheureusement la malédiction, mais Dieu nous met devant ce choix. Il nous demande de choisir le chemin de la vie, il nous demande de choisir le chemin de la bénédiction, et il est simple. Il passe par l'obéissance de la foi. Et parmi les bénédictions de Dieu, on peut en citer une, hein, Deutéronome chapitre 28, verset 12, l'Éternel t'ouvrira quoi ? Son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Que serait-il de notre peine quand on cultive le sol pour avoir quelques moissons, quelques récoltes, s'il n'y avait pas la pluie pour arroser la semence, pour la faire germer, et le soleil, cette alternance pluie et soleil, c'est une bénédiction de Dieu. La guérison, la délivrance, la consolation, l'encouragement, la paix et le bonheur que Dieu met dans les cœurs. Tout ça aussi, ça fait partie de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu. Et au sommet de tout ce qu'il peut nous donner de bon, il nous donne que de bonnes choses, hein. Toute bonne chose, tout don excellent vient d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Toute chose que nous donne Dieu est bon. Et le summum parmi tous les dons que Dieu nous fait, le don suprême, c'est la vie éternelle, c'est le salut. Le salut est l'expression de son amour. Le salut de nos âmes est l'expression de sa bonté. David dira ceci dans le psaume 25, verset 8. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs le chemin. Quel chemin ? Le chemin du salut. Dans sa bonté, dans son amour, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. L'Éternel est bon et droit. La croix exprime et l'amour et la justice de Dieu. C'est par amour, c'est parce qu'il est bon que Dieu pardonne, et il pardonne en abondance. Le roi Ézéchias, roi de Juda, à un certain moment va prier pour son peuple en disant ceci, ce sont ses paroles, hein, que l'Éternel qui est bon pardonne, que l'Éternel qui est bon pardonne. Il s'est placé devant Dieu pour demander le pardon pour son peuple. Il s'appuie sur quoi ? Sur cet attribut tout particulier qu'est la bonté de Dieu. Que l'Éternel qui est bon pardonne, oui, il nous pardonne, il nous pardonne. Jésus s'est présenté lui-même comme le bon berger, le bon berger, le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Il a donné sa vie pour que nous l'ayons en abondance. Jésus, le bon berger. C'est pas un berger quelconque, c'est le bon berger. Et cette particularité qui est mise en évidence, sa bonté. Jésus est le bon berger. Hier, aujourd'hui, demain et éternellement. Jésus est le bon berger. Dieu, dans sa bonté, nous a attirés à lui. Chaque conversion est un miracle. Je vais en quelques mots vous donner mon propre cheminement, ma conversion. Je suis né dans un foyer catholique. Et j'ai grandi avec tout ce rituel. J'ai toujours cru en Dieu. Toujours cru en Dieu. Mais je ne connaissais pas Jésus. J'ai eu part à très peu, mais alors très peu d'enseignements. Mais je me souviens avoir été marqué par la vie de Joseph dans l'Ancien Testament. Les sept vaches maigres, les sept vaches grasses. Hein. L'histoire de Joseph m'avait profondément touché et marqué. Et dans le Nouveau Testament, la parabole du bon Samaritain m'avait également touché. J'ai perdu mon père, je venais juste d'avoir 9 ans. Dans la religion catholique, à la Toussaint, on se présente devant les tombes des défunts. Et là, je me souviens qu'un jour de Toussaint, j'étais là, devant, au pied de la tombe de mon père. Et je me souviens que ce jour-là, juste à ma gauche, il y avait un champ, où il y avait un jeune qui faisait du motocross. Et pour moi, c'était signe de vie. Et puis là, de l'autre côté, là, on était tous la tête baissée. C'était quelque part la mort. Et j'avais dans mon cœur je me posais ces questions d'ordre existentiel. Très jeune, très jeune. Je me suis posé ces questions d'ordre existentiel là devant la tombe de mon père. D'où vient-on et où va-t-on? Ensuite, vers l'âge de 14-15 ans, j'ai eu une vision. J'étais dans ma chambre, et là, je regardais machinalement au travers de la fenêtre. Et là, le temps s'est arrêté. Le temps s'est arrêté, et j'ai eu la vision de l'univers. L'immensité de l'univers. Ce que j'ai ressenti au travers de cette vision, c'est cette immensité de l'univers. L'immensité est grand, très grand. Et dans cette vision s'est accompagnée d'une paix et d'une joie. Et je me sentais aimé. Je peux pas vous dire combien de temps ça a duré, parce que je suis sorti de l'espace-temps. Mais quand on fait une telle expérience, après, on n'est plus le même. Il y a quelque chose qui a changé, c'est quelque chose qui vous marque. Très vite, j'ai voulu rechercher, retrouver le Nouveau Testament qu'on nous avait fait acheter quand on était entré en sixième, mais qu'on n'avait jamais ouvert. J'ai cherché en haut, j'ai cherché en bas, j'ai cherché à gauche, j'ai cherché à droite, j'ai cherché, mais je n'ai jamais trouvé. Et puis, le temps a passé, l'eau a passé sous le pont. Je me suis retrouvé étudiant, et là je me souviens qu'un soir, le ciel était admirable, plein d'étoiles. Et là, tout à nouveau, devant cette beauté céleste, les questions d'ordre existentiel revenaient. Je suis rentré dans le monde du travail et j'ai fait la connaissance d'un collègue de travail qui faisait du yoga et son épouse était professeur de yoga. Ils m'ont parlé yoga. Comme j'étais en recherche, j'ai avancé dans ce yoga, enfin dans le yoga. Je suis allé assez loin puisque j'ai suivi une formation de professeur de yoga. J'aurais pu être professeur de yoga. Mais à la fin de ces études-là, nous étions tout un groupe d'étudiants et je voyais qu'au milieu des autres, il y avait des choses qui n'allaient pas. Un tel avait un accident, tel foyer était en rupture. Et puis, dans mon cœur, je sentais un vide qui commençait à s'installer. Moi qui étais plein de vie, de dynamisme et de joie, il y avait un vide qui s'installait en moi. Et donc, j'ai voulu chercher ailleurs, sachant que ça ne correspondait pas à ce que je cherchais. Alors, j'ai ouvert d'autres portes et d'autres portes et d'autres portes. J'ai ouvert la porte de la macrobiotique que j'ai très vite refermé. La macrobiotique, c'est un ensemble d'enseignements liés à l'alimentation et un côté spirituel aussi. J'ai ouvert la porte vers les sciences ésotériques. Et là, j'ai entendu une petite phrase qui m'a marqué. Je ne sais pas ce que cette phrase venait faire dans un tel milieu. Cette phrase était la suivante. Tout est dans la Bible. Amen. Tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Et là encore, je trouvais pas ce que je cherchais. Alors, j'ai encore frappé à d'autres portes. Et j'ai ouvert la porte du nouvel âge. J'ai perdu un copain qui avait à peine 25 ans dans un accident de voiture. Sa mère était effondrée. Et elle nous a demandé aux uns et aux autres, parmi ses copains, de la soutenir. Et c'est ce que j'ai fait année après année. Je la visitais régulièrement. Et un jour, elle avait besoin d'aller voir un magnétiseur. Et je me suis proposé de l'emmener. Dans cette salle d'attente, il y avait plusieurs publications, plusieurs affiches avec des petits messages, mais des petits messages empreints de sagesse, mais de sagesse toute humaine. Et donc, j'ai voulu le voir en personne, alors j'ai prétexté un petit problème d'eczéma pour le rencontrer. Nous parlions le même langage, un langage ésotérique. Je ressentais une certaine énergie. J'avais baigné dans ce milieu-là, et il l'a très bien senti également. Comme il a senti que j'étais en recherche, il m'a proposé une formation. Une de plus. Il me donne tout un tas de documentation, je les reçois chez moi par courrier, je commence à les consulter, et à un moment donné, ça a été très fort, il y a eu comme une voix en mon fort intérieur qui me disait « Surtout, ne touche pas à ça. Surtout, ne touche pas à ça. » C'était fort, tellement fort, que j'ai posé mes valises et j'ai fait demi-tour. Un jour, que je me trouvais sur la route, j'ai aperçu une petite chapelle sur le bas-côté. Je me suis arrêté, c'était une chapelle désaffectée. Il n'y avait plus aucun office. Je suis rentré, il y avait là des gens qui étaient là avec appareil photo en bandoulière. Et à un moment donné, j'ai prié. Pour la première fois de ma vie, j'ai prié. Alors, je n'ai pas demandé à Dieu de savoir s'il existait ou pas, parce que j'ai toujours cru en Dieu. Mais je lui ai demandé de se révéler à moi. Un jour, quand on prie, Dieu exauce. Amen. Un jour, je me trouvais sur un trottoir, et sur le trottoir d'en face, il y avait une personne de ma connaissance. Je traverse, alors avant de traverser, je regarde à gauche et je regarde à droite. Je traverse, je les salue, et là, dans la conversation, il me parle d'une réunion. Il faisait partie de ce qu'on appelle les hommes d'affaires du plein évangile. C'est une association, vous connaissez peut-être pour certains. Ce sont des chrétiens qui se réunissent dans des lieux publics où ils témoignent de ce que Dieu a fait pour eux. Jésus est vivant et il fait de belles et de grandes choses. Comme j'étais en recherche, j'ai répondu par l'affirmative, j'ai dit oui. Et je me suis rendu à cette réunion, c'était un soir, près de Laval, dans une salle des fêtes. C'était un dîner. Alors c'était au cours d'un repas. Alors il y a eu un temps de louange. Première fois que je me trouvais dans un tel climat, et toujours avec ce côté de ressentir les choses sur le plan de l'énergie, je ressentais les choses très bien. Et puis ensuite, il y a eu un premier témoignage. C'était un aumônier de prison qui était venu avec 3 ex-détenus. Et le premier témoignage qui a été donné, c'était le témoignage d'un homme. Il était maire d'un petit village. Il était père de 6 enfants, si ma mémoire est bonne. Et il avait été jeté en prison pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Et là, dans cette prison, il a crié à Dieu. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Un aumônier a visité la prison. Il l'a visité. Il lui a parlé d'évangile, il a reçu l'évangile. Et Dieu a fait justice. Il a ouvert les portes de la prison, il l'a blanchi et lui a fait justice. Et il témoignait. Dès ce premier témoignage, j'étais profondément, mais profondément touché. Et sa conclusion était celle-ci, il s'est tourné vers les jeunes, dont je faisais partie à l'époque. Il s'est adressé aux jeunes et il dit, surtout les jeunes, ne construisez pas votre vie sans le Seigneur Jésus. Ça m'a parlé aussi. Ensuite, il y a eu les 2 autres témoignages qui m'ont touché aussi. Et puis vient le temps de la prédication. L'aumônier de prison qui a prêché sur quoi? Sur l'amour de Dieu. Je n'avais jamais entendu parler de l'amour de Dieu de cette manière-là. Et pendant la prédication, j'ai été saisi par le Saint-Esprit. Je me suis senti sale, 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 mais sale. Et je n'avais plus qu'une seule volonté, c'est de mettre ma vie en règle vis-à-vis de Dieu. À la fin, il y a eu 2 appels. Un appel pour tous ceux qui avaient des besoins particuliers, guérison, délivrance, voilà, ou un besoin bien particulier. Et un deuxième appel pour ceux qui voulaient donner leur cœur à Jésus. Je me suis avancé, pas pour réclamer ceci ou cela, mais pour donner mon cœur au Seigneur. Je me sentais tellement sale. Le Saint-Esprit m'avait convaincu de péché, de justice et de jugement. Là, j'ai donné mon cœur au Seigneur ce jour-là. On s'en souvient, n'est-ce pas, du jour de sa conversion. Et ce soir-là, je ne suis pas reparti les mains vides non plus, le cœur était rempli, et je ne suis pas parti les mains vides non plus parce que on m'a offert une Bible. Une Bible! Arrivé à la maison, je ne l'ai pas mise à la cave ou au grenier, et je me suis empressé de la lire. Je la lisais, je la relisais, je la relisais encore et encore, et spontanément, intuitivement, je me suis mis à prendre des notes. L'amour de la parole était déjà dans mon cœur. Et je suis venu donc à chaque réunion des hommes d'affaires du plein évangile. Et comme je l'ai souligné, j'ai entendu de beaux témoignages. Jésus est vivant et il fait de grandes et de belles choses dans les vies. Et très vite, je suis passé de l'autre côté de la barrière. Je me suis mis à servir. Mais au fil du temps, donc j'entendais de nombreux témoignages, mais il y avait quelque chose qui me manquait. C'était l'enseignement. J'étais attaché à la parole. J'aimais la parole, mais j'avais besoin de cet enseignement. Et très vite, j'ai ressenti dans mon cœur que j'avais besoin de trouver une église. L'église, c'est capital. C'est essentiel d'avoir une vie d'église. Alors je ne me voyais pas prendre mon baluchon et faire le tour de la France en frappant à chaque porte. Est-ce qu'il y aurait une petite place pour moi dans votre église, dans votre assemblée? Non, je me suis tenu devant Dieu. Demandez et vous recevrez, hein, quand on prie, Dieu exauce. Alors, je lui ai demandé de me conduire. Dieu est là pour nous conduire. Je lui ai demandé de me conduire dans l'assemblée où je devrais aller. Et je lui ai demandé de me donner un signe. Je lui ai demandé que je sois accueilli, s'il vous plaît, par une prophétie, par un don prophétique, pour être certain que je sois bien à ma place. Et parmi mes collègues, si on peut les appeler ainsi, mes collègues du chapitre des hommes d'affaires du plein évangile de Rennes, il y avait un frère qui habitait comme moi à Fougères. Fougères, c'est en Ille-et-Vilaine, porte de la Bretagne. Il venait juste de rentrer dans l'assemblée de Fougères. Moi qui suis né à Fougères, moi qui ai grandi à Fougères, je ne savais même pas qu'il y avait une église évangélique à Fougères. Il y avait trois baptêmes ce jour-là, et ce frère m'invite à venir écouter les baptêmes. Je suis venu, les baptêmes c'était l'après-midi, mais je suis venu dès le matin pour le culte. Et là, encore, j'ai été profondément touché pendant les chants, à tel point que les larmes me coulaient. Et je suis revenu l'après-midi pour entendre les témoignages de ceux qui étaient baptisés. Là encore, j'étais profondément touché. Et après que les uns les autres se soient fait baptiser, qu'est-ce qui se passe? L'évangile est annoncé, n'est-ce pas? Et dans ce cas de figure, on invite un pasteur visiteur. Et une fois que l'évangile ait été prêché, le pasteur a fait un appel pour tous ceux qui avaient besoin de la grâce. Alors bon nombre de personnes se sont avancées. Et le pasteur local faisait chanter pendant le temps que le pasteur visiteur imposait les mains et priait pour ceux qui en avaient besoin. Il ne restait plus qu'une seule personne. Le pasteur visiteur était en train de prier pour elle. Il ne restait plus qu'une seule personne. Et là, tout à coup, le pasteur local qui faisait chanter s'arrête en plein chant. Ça, c'est quelque chose qu'on voit pas tous les jours, hein. Il s'arrête en plein chant. Et il apporte une prophétie. Il y a quelqu'un ici dont l'engagement spirituel est déterminant pour sa vie spirituelle, hein. Qu'elle s'avance. Ça n'a même pas eu le temps de passer par l'intellect que c'est descendu directement dans mon cœur. Je savais que c'était pour moi. Alors, je me suis levé. Je me suis avancé. Le pasteur visiteur a prié pour moi. Et au moment où il a prié pour moi, l'onction est descendu. Le Saint-Esprit est descendu. Il a rempli mon être intérieur. Ça chauffait. C'était physique, hein, je le ressentais physiquement. Ça chauffait. Il y avait une telle présence. Un tel bonheur. Et voilà pour ce qui concerne ma conversion au Seigneur. Le Seigneur est bon. Et à nous de témoigner pour glorifier son beau nom. Le Seigneur est bon. David dira encore dans le psaume 86, verset 5, « Car toi, Seigneur, tu es bon et clément, riche en bienveillance pour tous ceux qui t'invoquent. » Il est bon et il est riche en bienveillance pour tous ceux qui l'invoquent. À nous de l'invoquer. À nous de nous tenir devant sa face. Il cherche des hommes qui se tiennent à la brèche. Et David continue, psaume 69, verset 17. « Réponds-moi, Éternel, car tu es bon et bienveillant. Selon tes compassions, tourne-toi vers moi. » Il fait appel à la bonté de Dieu. Il crie à lui parce que il sait que Dieu est bon. Dieu est bon. C'est une réalité, et c'est une réalité à vivre, on passe à côté de tout si on ne vit pas la bonté de Dieu. Jérémie dira, dans les Lamentations, chapitre 3, verset 25, l'Éternel est bon. Amen. Bon, il y a au moins quelqu'un qui suit. L'Éternel est bon. Pour qui espère en lui? Pour qui le cherche? À nous d'espérer en lui, à nous de le chercher. Cherchez et vous trouverez. Naoum, chapitre 1, verset 7. L'Éternel est... Ah, amen. L'Éternel est bon. Il est un abri au jour de la détresse. Il prend soin de ceux qui se réfugient en lui. Et David lancera cette invitation. Il lance cette invitation pour chacun. Psaume 34, verset 9. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Dieu est bon et nous appelle à vivre cette réalité. Et pour vivre cette réalité, il nous a envoyé le Consolateur, le Saint-Esprit qui veut nous donner de produire le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la patience, la douceur, la foi, et aussi, ce qui est très important, la maîtrise de soi. On peut vivre la réalité, on peut vivre la réalité de la bonté de Dieu par l'action du Saint-Esprit. À nous de lui ressembler. Nous avons été faits à l'image de Dieu, mais malheureusement, le péché a terni cette image. Il nous faut retrouver cette image. Dieu est bon. Et Dieu nous invite aussi à grandir dans cette bonté. Paul dira aux Colossiens, chapitre 3, verset 12, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, nous le sommes, saints, nous le sommes, parce que nous sommes revêtus de fin lin, saints et bien-aimés, Dieu nous aime, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » Revêtez-vous. Autrement dit, habillez-vous d'ardente compassion, d'ardente bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Et dans le même registre, Paul continue quand il s'adresse à l'assemblée d'Éphèse, chapitre 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres. Soyez bons, que c'est bon d'être bon. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissant, faites-vous grâce, ça veut dire pardonner, faites-vous grâce réciproquement, c'est pas toujours les mêmes qui doivent faire le premier pas, faites-vous grâce réciproquement comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Oui, Dieu nous a fait grâce en Christ, et parce qu'il nous a fait grâce, on doit faire grâce, parce que nous avons reçu un plein pardon, nous devons apporter un plein pardon, parce qu'il est bon, nous devons aussi lui ressembler. Il y a ce petit cœur qui dit « Ah, te ressembler, Seigneur. » Dieu est bon, ses œuvres sont bonnes, il nous accorde tant de bonté, de grâce et de bénédiction. À nous de le reconnaître et à nous d'abonder en actions de grâce. Deutéronome chapitre 8, verset 10, c'était un avertissement qui était donné au peuple de Dieu qui allait rentrer dans le pays de la promesse, ce bon et vaste pays. Deutéronome chapitre 8, verset 10. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Malheureusement, nous savons que très vite, le peuple de Dieu s'est détourné de son libérateur. David dira dans le psaume 52, verset 11, « Je te célébrerai éternellement, car tu as agi. Je veux espérer en ton nom, parce que tu es bon à l'écart de tes fidèles. » L'action de grâce est dans son cœur. La reconnaissance est dans son cœur. Et il continue dans le psaume 63, verset 4, « Car ta bienveillance est meilleure que la vie. » Mes lèvres te glorifieront, hein. Parce que ta bienveillance, parce que ta bonté est meilleure que tous les plaisirs ici-bas, eh bien, oui, j'en prends l'engagement, mes lèvres te glorifieront, mes lèvres te loueront. Face à la bonté de Dieu, nous sommes appelés à cette reconnaissance et nous sommes aussi appelés à faire connaître sa bonté. C'est ce que nous appelons le témoignage. Ésaïe, chapitre 63, verset 7, dit ceci, il prend aussi cet engagement devant Dieu. « Je rappellerai les actes bienveillants de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout le bien que l'Éternel nous a fait. Je redirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, le bien qu'il aura fait à la mesure de ses compassions et de ses multiples actes bienveillants. » Que Dieu est bon, que Dieu est bienveillant. Quand Dieu nous fait une grâce, quand Dieu nous accorde sa visitation, sa bénédiction, sa consolation, il nous faut non pas le garder pour soi, mais le faire connaître. Témoigner de ce que Dieu a fait dans notre vie, c'est l'honorer et c'est faire connaître son beau nom. C'est donner faim et soif à ce monde qui a tant besoin de la lumière, tant besoin du salut. C'est pourquoi on veut témoigner de ce que Dieu a fait pour nous. Nous ne sommes pas là par hasard, mon épouse et moi-même. À un moment donné, on ressent que le temps est venu de se préparer à partir. Alors on se place devant sa face. Et j'ai fait monter vers lui cette prière. Eh bien, si je dois partir, oui, bien, que l'on me fasse une proposition. Pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq. Une proposition, une seule proposition. J'étais en contact avec la liste des besoins de pasteurs pour toute la partie sud de la France. Je l'ai reçu alors que je ne l'avais pas demandé. J'avais contacté le pasteur qui s'occupe du refuge. Vous connaissez le refuge, Marc 16. C'est lui qui organise les différentes sessions. Et moi, j'avais à cœur pendant un temps, de servir le Seigneur. Et donc, j'ai proposé mes services. Mais dans la conversation qu'on a eue par téléphone, il n'a pas compris que je me mettais à disposition pour servir au refuge pendant une semaine. Lui, il a compris que j'étais en recherche, puisqu'il était aussi le coordinateur des changements dans France Sud. Et il m'a fait parvenir la liste des besoins et des changements. Les besoins sont grands. C'est pour ça que le Seigneur nous appelle à prier le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Les besoins sont grands. Donc, les besoins sont grands. Alors, vous voyez, si on est face à toute une multitude de propositions, laquelle va-t-on prendre? On risque de se tromper. C'est pour ça que je me suis placé devant Dieu en lui demandant une seule proposition. Au mois de juin, l'année dernière, mi-juin, j'ai reçu un appel téléphonique de Myriam. Alain était très fatigué, au point que c'est Myriam qui m'a appelé. Et elle cherchait, Alain et Myriam cherchaient quelqu'un pour assurer les réunions. Alors, là-bas en Normandie, nous étions sur trois œuvres. Et c'est pas facile de se libérer, ne serait-ce qu'un seul dimanche. Mais j'ai dit à Myriam, pas de problème. On va s'arranger. On va trouver une solution. Avec le Seigneur, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc je suis venu au mois de juin l'année dernière. Et lorsque je suis entré dans cette salle, j'ai ressenti profondément que ma place était là. C'était fort. Le midi, nous avons déjeuné avec Alain et Myriam. Et là, il m'a fait la proposition de le remplacer. Il est bon, même si j'avais cette pleine certitude, cette pleine assurance que Dieu me voulait là, il est bon de toujours prendre un temps de réflexion et de se placer tout à nouveau devant la face de Dieu. Pour moi, c'était clair, ma place était là, mais on a convenu ensemble de prendre un temps de réflexion. Et pendant ce temps de réflexion, Dieu parle. Nous savons que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Un jour à Granville, nous avons reçu un pasteur visiteur. On le laisse prêcher la parole. Et pendant la prédication, il y a un moment où ça m'a parlé tout particulièrement. Il disait ceci: quand Dieu nous donne une direction, et c'était le cas, nous sommes invités à faire le pas de la foi. On se met en marche. Et c'est au fur et à mesure de notre marche que les choses se mettent en place, que les portes s'ouvrent. J'avais cette certitude que Dieu me voulait là, mais j'attendais. Qu'est-ce que j'attendais? J'attendais un signe fort pour notre succession. Sur trois œuvres. Déjà, assurer que notre succession soit assurée déjà dans une seule œuvre, parfois, ça relève du miracle. Et vous savez ce qu'il en est. Et là, il y avait quand même trois œuvres. Donc, il fallait le miracle de Dieu pour que nous ayons une succession dans ces trois œuvres. Et Dieu a pourvu. Ça, c'est la petite histoire. Dieu a pourvu. Alors, j'ai été touché par cette pensée très forte. Et le lendemain, en fin d'après-midi, Alain m'appelle pour me donner de ses nouvelles, de sa santé. Et puis vient la question du remplacement. Et puis dans la conversation, dans l'échange téléphonique qu'on a eu, il développe la même pensée, sans que je dise quoi que ce soit, il développe la même pensée, mais avec d'autres mots. Pour moi, c'était clair. C'était clair. Alors, je lui ai dit, oui, on y va. Et à partir du moment où j'ai dit, oui, on y va, l'onction de Dieu est descendue, a rempli là encore tout à nouveau mon être intérieur, jusqu'au petit matin, j'avais encore la présence de Dieu dans mon cœur. Et Dieu a pourvu à notre succession. À Granville, c'est le pasteur de Saint-Malo. Et sur Torigny et sur Vire, c'est le pasteur d'Avranches qui a pris la succession. Il fallait un miracle. Et Dieu est le Dieu de la miracle. Ensuite, nous avions une maison. On l'a toujours pour l'instant. Vous savez que le marché immobilier, c'est pas toujours facile, hein. Le délai moyen de vente d'une maison est relativement long. Il y avait une maison tout à côté de chez nous qui a été en vente plus d'un an. Et encore, c'est pas trop mal. Et là, on l'a mis en vente début mai. Et un mois et demi après, nous avons eu une visite. C'était la première visite. C'était un jeune couple. Alors je n'ai eu que juste le temps de les apercevoir, de les saluer parce que je devais aller à assurer une réunion. Mais Aline et moi, on a senti au travers de ce jeune couple dégager quelque chose de bon. Heureusement, il y a des gens qui sont bons au milieu de notre société. On a ressenti qu'il se dégageait quelque chose de bon de ce jeune foyer. Donc je suis parti assurer la réunion et tout le long de la route, je priais le Seigneur. Voilà, pour que les choses se fassent selon sa volonté et qu'ils aient le coup de cœur. Et pendant ce temps-là, Aline aussi s'est mise en marche pour les laisser visiter avec l'agent à la maison, et puis elle priait en son fort intérieur, hein, pour que le Seigneur leur donne d'avoir le coup de cœur. C'était la même prière alors qu'on était distants l'un de l'autre. Et quand ils sont partis, le jeune homme a dit à Aline, « Vous avez une jolie maison. » Alors Aline leur dit, « Ben voilà, ben je vous souhaite bonne réflexion, etc. » Et effectivement, ils avaient le coup de cœur. Leur visite, la visite de la maison n'était pas prévue. Elle n'était pas au programme. Elle n'était pas du tout au programme. Et l'agent immobilier, là, comme ça, hop, d'un coup, il a dit, ah ben, on va aller la visiter. Et comme par hasard, ils ont eu le coup de cœur. Là aussi, il fallait un miracle. Et Dieu est le Dieu des miracles. Après, on est sans maison, alors il faut chercher un toit, n'est-ce pas? Oh là là. Là aussi, on a besoin du miracle. Hein. De toute façon, on a besoin du miracle tous les jours, à chaque heure. Quand on a commencé à faire nos recherches sur Internet, on a aussi visité trois agences sur Pontchâteau pour nous faire connaître et faire connaître un petit peu nos besoins. Et quand on est revenu sur Redon, hein, pour prêcher à Redon, on en a profité de ce temps-là pour faire deux visites. Ce jour-là, il aurait fallu avoir sa boîte de Kleenex. C'était triste à mourir. Deux visites et... On se demande même des fois comment certaines personnes peuvent mettre des maisons en vente, mais enfin à des prix relativement importants. Et on regardait sur Internet, mais c'était profondément décourageant parce que on voyait pas du tout chaussures à notre pied. Et puis en regardant Internet, là, pas très longtemps, on a fait une sélection de 5 maisons. Alors j'ai appelé, on a pris rendez-vous et on est venu. On devait visiter 5 maisons. Mais arrivé à l'agence, il nous a dit, oh, celle-là, elle vient d'être vendue. Celle-là, elle correspond pas parce que, vous savez, on a les photos, mais la réalité, elle est tout autre. Parfois, il nous dit, oh là, celle-là, non, ça va pas aller à votre teint, hein. Il a pas dit ça comme ça, mais ça va correspondre à vos besoins. Donc, ce qui fait qu'on s'est retrouvé qu'avec deux maisons à visiter. La première, c'est celle qui nous avait déjà interpellés. Et là, Aline et moi-même, on a eu le coup de cœur. On a eu le coup de cœur. Puis ensuite, pour la forme, on a visité une deuxième et puis une troisième. Voilà, donc on a fait une proposition, voilà, et puis on a dit qu'on était, voilà, on était partant pour la première maison. Donc, le temps que les choses se mettent en place, on a signé le compromis. Et juste avant de signer le compromis, on a demandé à l'agence de pouvoir revenir visiter la maison. Non pas pour tirer à pile ou face si on allait la prendre, mais pour voir si certains de nos meubles pourraient aller. Et cette fois-ci, la propriétaire était là. Là aussi, c'est un jeune couple. Comme à l'image du premier couple, un jeune couple qui dégage quelque chose de bon. Et dans la conversation, je demande à l'agent immobilier s'il connaissait sur Redon des garde-meubles. Eh oui, parce qu'on vend notre maison, donc il faut la vider. Mais celle-ci, là, avant que l'acte soit signé, ça demande 2 mois et demi, 3 mois, donc... il faut bien mettre ses meubles quelque part, donc dans un garde-meuble. Et donc je lui demande s'il connaissait un garde-meuble sur Redon. Et puis là, la jeune propriétaire, eh bien, elle dit, on a un garage annexe à la maison, comporte un sous-sol, mais il y a aussi un bâtiment annexe, un garage. Et elle nous dit, là, d'emblée, on le met à votre disposition. Plus besoin de chercher de garde-meubles. Merci Seigneur, un garde-meuble à titre gracieux. Voilà, ils nous ont fait plusieurs largesses Et notamment, ils ont aussi, à côté de leur maison, ils ont aussi un autre terrain sur lequel il y a un puits. Et ils nous donnent la possibilité, bien, d'utiliser l'eau du puits. Et l'eau du puits, ben, c'est précieux aussi, hein. L'eau, c'est la vie. Là aussi, il y a eu le miracle de Dieu pour trouver cette maison. Nous avions aussi prié, alors la maison, elle correspond point pour point à ce qu'on avait demandé au Seigneur. Ensuite, et nous avions aussi prié pour que notre fille Clémence trouve une école. Et c'est pas toujours facile quand on est face à un choix. Donc on lui a demandé que les choses soient conduites. Alors là-bas, il y a deux écoles. C'est un petit village, Guérouette. Vous connaissez Guérouette? Ah, c'est joli, c'est mignon. Faut vous y arrêter. C'est paisible. Il y a le canal de Nantes à Brest. Il y a un petit port. Ah, on est tombé sous le charme. Hein? Donc il y a deux écoles là-bas, une privée et une publique. Donc on a pris contact avec les deux. On a pris contact avec l'école publique une première fois. Pas de réponse. Une deuxième fois, on a eu une institutrice, mais qui nous dit que la directrice n'était pas encore là, mais qu'elle allait nous appeler. Donc, on a appelé, mais on n'a pas eu de réponse. Pas eu de réponse. Alors, on s'est adressé aussi à l'école privée. Et là, on a eu le directeur. Le directeur nous a fait savoir que ben, qu'il allait réfléchir avec ses collègues à la possibilité d'accueillir Clémence. C'est une école qui a une éthique, c'est une école qui vit des valeurs, et elle veut prendre soin de l'enfant et lui permettre d'avoir un apprentissage dans de bonnes conditions. Donc ils ne veulent pas avoir de classe surchargée. Et il y avait déjà quelques élèves du public qui venaient dans le privé. Alors, il nous a dit, on va poser les choses, on va regarder. Et là, tout à niveau, le miracle de Dieu, les portes se sont ouvertes. Il nous a dit, voilà, pas de problème, on est partant pour accueillir Clémence. Donc, nous sommes allés, on a visité, et, alléluia, on a pu témoigner de notre foi au directeur. C'est quelqu'un qui est sensible. C'est quelqu'un qui a reçu ce témoignage. Alors on prie pour que le Seigneur, là aussi, le touche. Dieu est... Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te célébrer, te chanter, te bénir pour ta bonté, pour ton amour. Oui, nous voulons abonder en actions de grâce. Ô combien tu es bon, ô combien tu es bon, ô Seigneur notre Dieu. Que de bénédictions, que de grâces, et ce salut si précieux pour nos âmes. Oui, nous ne voulons pas nous taire. Nous voulons faire connaître tes hauts faits, afin que la multitude vienne à toi, s'attache à toi, et soit arrachée de la perdition. Oh, que tu es grand, oh, que tu es bon. Oui, Dieu est amour, et nous voulons te célébrer, et nous voulons te servir, parce que tu es bon, parce que tu es fidèle, parce que tu seras toujours là pour nous qualifier, pour nous relever, pour nous assister. Nous voulons chanter tes louanges. Ô Dieu, que tu es bon. Ô Dieu, que tu es grand. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.